les mails qui comptent vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Ah, oh, j'adore. On vient de recevoir un texto. Ma nièce faisait partie des 70 mineurs à Trois-Rivières. Elle va avoir 18 ans à la mi-juin.
Oh, ben là.
Et je ne sais pas à quel point tu peux laisser ton enfant au poste parce qu'elle est repartie avec son chum qui est majeur et qui était avec elle vendredi soir. Il est étudiant de technique policière. C'est peut-être pour ça.
Oups,
c'est plus... C'est 300$ d'amende qu'on donne à la personne mineure qui est dans le bar.
Ben, ça, c'est une bonne punition. C'est comme parent de ne pas payer le ticket. Puis de dire, ma grande, mon grand, c'est toi qui peux payer 300$.
Aïe, aïe, aïe. Alors, merci pour cette information par texto. Antoinette, j'aime toujours ça quand on met un petit peu le bain et on refait l'histoire de ce qui s'est passé. Et là, en fin de semaine, on apprenait. Éric Girard a écrit un courriel à Christine Fréchette. Puis là, Christine Fréchette a reçu ça. Puis là, toi, tu me disais, Gérard, il fait toujours ça.
Ben oui.
On est un écœurant.
Ben, c'est un écœurant. C'est le ministre des Finances.
Ouais.
Le Trésor puis les Finances au gouvernement, là, t'es un peu plate avec le monde.
Non,
parce
non,
que
en
si
effet.
Si tu disais oui à tout le monde, qu'est-ce qui arriverait?
Ben, il arriverait des déficits encore plus
un
majeurs
milliard,
que ce qu'on a.
De milliards de dollars de déficit.
Et là, samedi, ben, on l'appelle-tu comme ça, congrès de la CAQ? Conseil général de la CAQ à Lévis. Et là, Éric Girard, ben, il a patiné devant les journalistes.
Le prix de l'essence est plus élevé et donc l'impact sur le coût de la vie des Québécois est très important. Bien, la TVQ, l'annonce n'est pas faite. Là. À date, ce qui est annoncé est à l'intérieur du 250 millions. Effectivement, il y a d'autres gestes qui sont considérés.
On l'a déjà vu plus à l'aise, mais Christine Fréchette a rappelé devant les journalistes que c'était elle, la bosse.
À titre de ministre des Finances. Il fait son travail. C'est important qu'il le fasse. Et je le remercie d'ailleurs pour le faire parce qu'il se fait, il est le gardien des finances publiques. Maintenant, moi aussi, j'ai un regard qui est à portée plus large encore.
Et aujourd'hui, il a rajouté ceci.
Bien, la situation a évolué au sens où on a eu davantage de transferts du fédéral. Donc ça nous a donné une certaine marge de manœuvre. Puis voyant que la situation ne s'améliorait pas pour le portefeuille des Québécois, bien, on a décidé de donner un coup de main additionnel.
Est-ce que vous avez peur qu'on vous reproche de dépenser autant que François Legault à ce rythme-là?
Pas, parce que la situation le requiert. Donc pour moi, c'est d'être en phase avec les besoins des Québécois, les annonces d'aujourd'hui.
Alors voilà, c'est elle la bosse, c'est elle qui décide, c'est tout à fait normal, c'est la première ministre. Puis Éric Girard a bien beau dire, fais attention, si elle, elle décide que dans le contexte économique, il y a des choix à faire, elle va les faire.
Exactement, puis c'est dans l'ordre des choses. La nouvelle, c'est beaucoup plus qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a envoyé ça à Radio-Canada. Moi, c'est plus ça qui m'a accroché parce que M. Girard, il fait tout le temps ça. Là. Il en a envoyé des centaines, des courriels comme ceux-là. Puis semble-t-il que celui-là était plutôt doux à compagnie de certaines autres versions
ben
que
ça,
M.
Legault
a reçues.
Je suis content de l'apprendre parce que moi, ma première réaction, qui ne sait pas qu'Éric Girard a l'habitude d'envoyer ça, c'est de dire... Gamois le misogyne, toi. Il s'en permet parce que Christine Fréchette, c'est une femme à la tête qui s'en est jamais permis que François Legault, puis il a fait des déficits records. T'sais, quand on est à l'extérieur, là, le premier regard que moi, ça m'a apporté, c'est ça, c'est de dire « Galez donc, il a jamais challengé Legault, mais là, il se permet avec Fréchette, puis c'est lui qui a fait des déficits records. »
Exact, mais tu sais, la réalité, c'est qu'il l'a challengé, Legault.
Puis
M. Girard, il doit porter la responsabilité des déficits, il peut pas s'en dégager. Mais c'est sûr qu'il s'est battu contre plusieurs dépenses du gouvernement. Là, quand on regarde en coulisses, je crois qu'il aurait préféré que la CAQ soit moins dépensière. Il a décidé de rester, il a décidé de présenter ses budgets, donc il doit partager solidairement les déficits de M. Legault. Maintenant, c'est normal que Éric Girard envoie des petits messages au cabinet de Mme Fréchette pour dire là, attention, là, on avait budgété des choses. L'autre élément, c'est que les budgets, c'est pas une science exacte. Parce qu'effectivement, on fait des prévisions de revenus, donc les taxes qui vont rentrer, les transferts fédéraux, ces choses-là. Et on fait des prévisions de dépenses avec les informations qu'on a. À un moment donné, si l'inflation monte puis que les dépenses de certaines choses, ça se peut que ce soit pas exactement ça. Donc, quand il dit on a la marge de manœuvre pour ça, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, politiquement, Mme Fréchette doit faire attention. Parce qu'un des avantages qu'elle a en ce moment, c'est d'avoir réussi à marquer une fin de chapitre par rapport à l'époque Legault. Et d'apparaître comme étant vraiment dans une nouvelle ère.
C'est là que c'est pour ça que j'ai laissé la question dans l'extrait, parce que c'est là que je trouvais
c'est
intéressant, où on vient déjà comparer Mme Fréchette à François Legault, ce qu'elle veut pas du tout.
C'est ça. C'est ce qu'on veut éviter si on est Christine Fréchette. Donc, il y a comme un petit avertissement ici qu'elle doit écouter, à mon avis, parce qu'elle a réussi à aller chercher 9 points supplémentaires dans les sondages. Mm-hmm. C'est bien. C'est un exploit. C'est notamment parce qu'elle a réussi à montrer l'image d'un nouveau gouvernement par rapport à l'ère Legault. Mais là, c'est sûr qu'on se dit, bon, ben on est bien content pour toi, madame, mais c'est notre argent, là.
Puis, je trouve ça intéressant que tu parles du fait que la comparaison avec François Legault va revenir parce que ça commence déjà à débouler dans les médias. C'est sorti il y a de ça une vingtaine de minutes dans le Journal de Québec. C'est l'économiste en chef du mouvement Desjardins qui a justement critiqué l'élimination de la TVQ en disant que Christine Fréchette répète la même erreur
voilà.
que François Legault avait fait en 2022 avec le crédit d'impôt aux Québécois.
Le fameux chèque.
Donc là, on commence déjà à créer des liens avec ce que Legault faisait à l'époque électorale puis ce que Christine Fréchette fait en ce moment.
Ou Justin Trudeau aussi, on préfère des aussi. Liens. Là, quand ben on avait détaxé les dindes puis les sapins, là, ça sentait le désespoir pas mal, là, cette mesure-là, quelques semaines avant de quitter son poste. Donc, elle doit faire attention. Puis, rappelons-le, couper la TVQ, c'est sûr, c'est le fun. Là, les gens sont comme, ah, ben oui, c'est une bonne idée de m'enlever des taxes. Mais on parle de 50 $ en moyenne par année, puis ça prive le gouvernement de 100 millions dans le budget. Fait que, tu sais, je veux bien, là, mais il faut faire attention. Faut faire attention de ne pas se faire acheter avec notre propre argent. C'est
non,
ça, mais
t'as entièrement raison. Puis il y a plusieurs auditeurs qui mentionnent, en plus, elle n'est pas une première ministre qui a été élue par le peuple, seulement élue par la CAQ. Tu vois-tu là une différence, toi?
Non, parce que notre système politique,
comme moi, j'en
elle
vois
est
pas.
Légitime. Elle peut le faire. Par contre, c'est légitime aussi qu'on soulève ces problématiques-là. Donc aujourd'hui, mm-hmm. il va y avoir les annonces officielles. On parle de la TVQ qui sera retirée de certains produits, de baisse des coûts d'immatriculation. Il y aurait aussi une annonce pour les personnes plus vulnérables dont on n'a pas encore la teneur. Ça n'a pas coulé dans les médias. On verra à 14 heures de quoi il s'agit. Mais ça fait pas mal de choses parce que là, il faut ajouter aussi à ça qu'il y a une baisse sur la taxe d'essence. Il y a eu la taxe de bienvenue.
Ouais.
Rétroactive. Moi, je ne sais pas comment ça donne plus accès à la propriété de rembourser des gens qui ont acheté une maison il y a 6 mois.
Moi non plus.
Je suis bien content pour vous si ça vous touche. Là.
Mais en effet.
Mais c'est un anane, là, ça. Là, on s'entend.
Oui, puis je veux dire, dans l'immobilier, on a un problème qu'on n'a pas assez d'offres. Pis,
c'est ça, ça n'a pas rapport.
Ça fait juste augmenter la demande. Donc, ça règle rien.
Il y avait le petit couple, là, quand Christine Fréchette faisait son discours d'ouverture qui était dans les tribunes, puis il disait, je me rappelais pas comment il s'appelait, là, Léa et Jean-François, ont acheté une maison en janvier. Ben, je suis vraiment contente pour vous, Léa et Jean-François. Mais ça ne met pas plus de maisons sur le marché. Puis
non,
ça...
puis quand vous l'avez acheté, ben vous aviez calculé, comme j'ai fait moi, votre taxe de bienvenue. Alors, voilà. Hey, avant de parler justement du domaine de l'habitation avec les maisons préfabriquées, je veux quand même te parler de mon globe trotteur préféré.
Oui!
C'est-à-dire Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec. On l'écoute le 31 juillet 2022.
On n'est pas là pour brouiller les pistes nulle part. Là, on est là pour gagner. Moi, je suis venu dans Chauveau parce que c'est une circonscription qui me ressemble. C'est une circonscription aussi qui a un profil plus jeune. C'est des gens, c'est souvent beaucoup de jeunes familles aussi qui sont ici.
L'été dernier, à Arthabasca.
Avoir un chef dans une circonscription, ça vient avec des privilèges. À partir d'aujourd'hui, vous allez faire parler de vous.
Ah, OK. Et là, on va être à Bellechasse. OK, attends une minute. Chauveau, ça le ressemblait.
Ouais, Québec.
Arthabasca, là, si moi je suis chef, là, vous allez voir, ça va marcher. Puis là, on s'en va à Bellechasse. Ah, Bellechasse. Québec, 125. Hein? 39 % PCU. Ah!
Mais c'est un hasard. C'est parce que la circonscription lui ressemble.
Non, mais tu sais, honnêtement, là, si t'es chef de parti, t'es censé être assez bon pour te faire élire en quelque part où tu vis.
Je comprends ton point. En même temps, M. Duhaime a raté 2 fois sa rentrée à l'Assemblée nationale. Et lui, là, il s'en fout un peu d'avoir l'air un peu fou puis d'être parachuté. Là, il veut rentrer.
Je
le comprends. Il nous l'avait dit de manière très transparente il y a quelques semaines, là, parce qu'on spéculait un peu sur où est-ce qu'elle allait se présenter. Puis le PCQ m'avait répondu, c'est pas compliqué, là. On va regarder c'est quoi la meilleure circonscription. Mm-hmm. Puis il va aller se présenter là. Puis... on peut dire qu'il est parachuté ou quoi que ce soit, là, puis ça, les critiques vont... Mais je pense que les avantages dépassent de loin les inconvénients pour lui.
Ouais, mais ça fait partie de boboche, là.
Ben, c'est un peu... Ben, c'est un parti de boboche, puis je le dis même pas méchamment.
C'est vrai, t'as raison, finalement.
OK, c'est un parti qui n'a pas de député, que c'est un one-man show à date, on est d'accord avec ça.
Hey, pas de député, attends une minute, tu es allé chercher Maïté.
Ah ouais, ça,
t'es Maïté qui a cogné à la porte de QS. Bonjour, est-ce que je pourrais entrer chez vous? Là, ils ont dit non.
Ben, je pense que ça contribue aux broches à foin. Ça.
Ouais, ouais, c'est ça.
Mettons-le dans le même panier.
Puis celle qui veut se battre pour des régions aussi qu'on parachute à Québec ou aussi.
Oui, à la pelleterie.
Mais même si c'est broche à foin, M. Duhaime a réussi son exploit, c'est-à-dire continuer à exister après la pandémie sans député à l'Assemblée nationale.
En effet.
Et là, c'est pas vrai. La prochaine étape pour lui, c'est ça. Tu sais, tantôt, on parlait de désespoir un peu de nous acheter avec des baisses de taxes de la part de Fréchette. Elle s'en fout pour l'instant parce que sa priorité, c'est de monter assez dans les sondages pour recruter des candidats.
T'as raison.
Duhaime, sa priorité, c'est de rentrer à l'Assemblée nationale en octobre prochain. Donc, il concentre ses énergies là-dessus, puis il se dit, je justifierai le reste plus tard, tant pis pour ça, on verra plus tard. Moi honnêtement, tu sais, ça serait belle fun qu'il se représente dans une circonscription. Je vais me représenter dans Arthabasca. Tu sais, je leur avais dit que j'allais... Non, tu sais, je veux dire, c'est pas une bonne idée. Là. Dans la vie, là, en politique, le but, c'est de gagner aussi. Des fois, on oublie, on dirait.
C'est clair, il n'a même pas réussi à battre Sylvain Lévesque dans Chauveau.
Ben, en 2022, là, la CAQ était projetée. Ils ont gagné 90 députés. Tu sais, je veux dire, on oublie qu'à ce moment-là, je veux dire, la CAQ, c'était sur l'autoroute de la facilité. Là.
En effet, t'as entièrement raison. Hey, deux éléments très intéressants dans le domaine de la construction. Le premier, je veux t'en parler parce qu'on a passé outre il y a une couple de semaines, c'est les maisons préfabriquées, l'annonce de Samuel Poulain. Et on écoute à cet effet Jean-Philippe Mercier, maire de Saint-Gédéon-de-Beauce.
On le voit là, le plus que ça pourrait amener. Là. Des grosses maisons, c'est plus abordable. Mais ça aiderait nos épiceries, ça aiderait nos dépanneurs, nos commerces, nos industries qui peinent à trouver des gens là, pour travailler.
Il n'y aurait rien que les fous qui ne changent pas d'idée. Moi, au début, j'ai dit, okay, des maisons préfables. On est vraiment rendu là. On est vraiment rendu là au Québec. Puis, là, tout à coup, je me suis rappelé d'avoir visité le quartier à Scott en Beauce, des mini-maisons. Puis, j'ai dit, c'est vrai, c'est non, mais ce quartier-là, crime toutes mes petites mini-maisons, le monde habitait là-dedans, leur petit lapin de terre, tout ça. Puis là, j'écoute justement le maire de Saint-Gédéon-de-Beauce, le maire de la Guadeloupe, hein, puis plein d'autres maires dans la MRC de Beauce, puis également de Chaudière-Appalaches. Puis je me dis, ouais, finalement, ils disent, on manque d'employés pour nos industries, le dépanneur roule
la
plus,
construction s'est bloquée.
C'est ça. C'est une bonne idée, ça.
Bon, là, je suis vraiment excitée. Tu sais, le genre de sujet que personne s'intéresse à ça pendant des années, puis que, tu sais, toi, t'es comme, moi, ça, je trouve ça cool. Puis à un moment donné, ça devient cool. J'ai une petite fierté. Donc, le préfab, quand Samuel Poulain, ministre des Affaires municipales, a fait sa sortie sur « on pourrait essayer de faire des quartiers avec des maisons mobiles », premièrement, le mot « maison mobile » est chargé. Parce que la moyenne des ours va s'imaginer une maison mobile, premièrement, égale pauvreté.
Ouais, puis une roulotte, là.
Park. Oui, donc mais ça ne fait pas ambitieux.
Mais là, les maisons préfables, ce n'est pas des roulottes. Là.
Hey, les maisons préfables.
Sont belles en
même
tabarouette.
Les mini-maisons préfables. Moi, pour vrai, pas avoir deux enfants, moi, je vivrais très bien là-dedans, passant. Là. Puis, il y a eu plusieurs projets pilotes dans les dernières années. Je pense à un, notamment, en Gaspésie. On avait recruté du côté du CIUS de la Gaspésie des infirmières, puis il n'y avait pas de place pour les loger. Donc, on essayait d'attirer de la main-d'œuvre, pas de logement pour les infirmières. Bien, ils ont fait un petit quartier de maisons préfables, des mini-maisons préfables. Et je trouve que c'est innovant. OK? Il faut trouver d'autres idées. Puis quand Samuel Poulain parlait de faire des quartiers de maisons mobiles, des petites maisons préfables, j'haïs ça que le monde grimpe dans les rideaux tout de suite. Oh, c'est bien, puis on n'a pas d'ambition, puis on veut des grosses maisons. Puis hey, deux secondes. OK? Le mieux est l'ennemi du mal. Non, c'est pas ça. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc, des fois, là, peut-être que c'est pas toi ton rêve d'avoir une petite maison en préfab. Mais il y a des gens en ce moment qui ont de la misère à trouver un 2,5 en bas de 2 000 $.
Ben, c'est ça que j'allais dire, mais ça peut commencer par là. Puis tu sais, je fais juste donner une anecdote personnelle. Quand j'ai vendu mon jumelé, parce que j'étais plus capable de le payer toute seule. Bien, je me suis en allé dans un 4,5 de transition, tu sais, en me disant en attendant. Puis là, bien, ça a bien donné. J'ai rencontré ma blonde, tout le kit, puis on s'est acheté une maison. Mais c'est un peu ça aussi avec le préfab. Ça peut être, hey, en attendant, au moins, je vais avoir ça avec mon petit lapin de table, ma famille.
Ah oui?
Puis ça peut devenir le permanent aussi.
Ça peut être transitionnel. Ça peut aussi être pour des gens qui sont intéressés à réduire la superficie de leur maison. Il y en a qui n'aiment pas ça entre dans les maisons en passant, c'est bien
t'as
correct.
T'as tellement raison.
Puis l'autre affaire avec le préfab et le mobile, c'est que c'est agile. Tu peux te déplacer plus facilement une maison mobile, entre guillemets, préfab, qu'une maison avec des grosses fondations et tout ça. Et ce qui m'amène à vous parler de l'institutionnel. Donc, quand on parle de construction institutionnelle, on parle d'hôpitaux, d'écoles, de CPE et autres bâtiments gouvernementaux. Et il y a certaines juridictions dans le monde où on fait une plus grande place au modulaire. Tu sais, quand on parle d'école modulaire, premièrement, les médias, on a tendance à appeler ça comment? Des roulottes aussi. Ouais. Les enfants vont être dans des roulottes. On met toujours ça négatif.
T'as raison.
Vous irez voir. Sur Internet, le googler nouvelles écoles
dans
les modulaires.
Ah non, les classes modulaires sont écœurantes. Ils ont même l'air climatisé.
C'est même plus haute. C'est plus haute que nos vieilles écoles.
Les profs me disent, parce que j'en connais beaucoup, « Hey, écoute, l'été, je veux toujours travailler dans le modulaire. Ils sont climatisés. »
C'est lumineux. Ben c'est neuf. Puis sais-tu qu'est-ce qu'il y a de
génial avec ça? Il y en a qui travaillent dans des locaux qui n'ont même pas de fenêtres.
Mais non, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Puis en plus, de nos jours, il fait plus chaud à partir du mois de mai. Ben, il fait plus chaud jusqu'au mois d'octobre.
Exactement.
Donc, mais pas rien que ça, là. Ça, là, quand il y a eu la pandémie, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont quitté l'île de Montréal. De plus en plus, les gens vont dans les Laurentides, à la Naudière, avec le télétravail, Rive-Sud de Montréal également. Et il y a des mouvements démographiques, des fois, comme ça, qui font qu'il y a des écoles qui deviennent moins utilisées dans certaines régions, certains secteurs, et qu'il y a des autres écoles qui vont être surpopulées dans d'autres secteurs. Avec du modulaire, tu comprends, tu n'as pas besoin de dire « Hey, il faut qu'on construise 52 écoles dans Laurentides l'année prochaine » à des coûts exorbitants, comme vous savez, les coûts de la construction. Puis là, je vais vous parler d'un autre problème qui s'en vient avec le nouveau coût de la construction. Mais avec des modulaires, tu peux dire « OK, on va monter des modulaires davantage dans certains secteurs. » Puis si dans 10 ans, là, c'est un autre secteur, on démonte tout ça, puis on envoie ça dans l'autre région. Je caricature. Avec aussi, de nos jours, avec les changements climatiques, il y a des problèmes, des fois, d'inondations dans certaines régions.
Là, tu l'as pas avec ça.
Bien, de pouvoir monter, démonter, déplacer des choses. Bref, on devrait faire une plus grande place à ça, puis arrêter à chaque fois de voir ça comme un échec de société. Oh, ouais. Des enfants dans une roulotte, un échec collectif.
Mais c'est,
non.
C'est qu'avant, c'était pas chic. Là. C'était
ben,
pas,
y avait des, y a eu les vraies roulottes de chambre. Bon, ouais, pas de toilette, ça marche pas.
C'est que là, je viens d'aller voir des photos parce que j'en ai eu des cours dans des modulaires qui n'étaient pas aussi beaux que ça. Maintenant,
ça s'est amélioré.
Mais là, non, c'est ça. C'est des belles bâtisses avec des fenêtres, avec une aire climatisée. C'est sûr
vraiment.
Que là, on parle de quoi qu'il y a bien de l'allure pour avoir des cours.
T'sais, mon message, dans le fond, là, c'est sortons de nos préjugés. Puis, quand quelqu'un propose quelque chose d'original, au lieu de partir en peur puis de lancer des tomates, est-ce qu'on peut faire preuve d'un peu d'ouverture d'esprit?
J'suis très d'accord.
Bon, là, en parlant de...
C'est ça, là, oui. J'y arrivais.
Vas-y.
Le bâtiment ici, il est 5 étages. S'il y a un tremblement de terre, il y a un gros risque d'effondrement. Ouais. Fait qu'il va falloir faire en sorte que la structure soit améliorée. Attends, je vais regarder ça, là. À l'œil nu, 70%. 70% faut améliorer cette structure-là parce que dans les dernières années au Québec, il y a énormément de buildings comme ça de 5 étages qui se sont effondrés lorsqu'il y a eu un tremblement de terre.
De 7 et plus sur l'échelle de Richter.
Le dernier tremblement de terre de 7 et plus sur l'échelle de Richter, il remonte aux années 1600. Mais
ça peut arriver. Hein,
ben là, avec les changements climatiques...
Probablement.
Ouais, mais tu sais, j'essaye de mettre plein d'affaires. Là,
oui, d'ailleurs, c'est l'anniversaire du documentaire de Al Gore sur les changements climatiques où est-ce qu'on serait supposé d'être tout en train de brûler dans des volcans en ce moment.
Puis des séismes n'ont pas nécessairement de lien, là, si je me trompe pas. Là, c'est les plaques tectoniques qui bougent.
Ça peut arriver. OK, bon, après ça, à ta minute, moi, j'ai déjà été dans un conseil d'administration de l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées.
Ouais.
Puis je me souviens, ce qu'on exigeait des organismes, c'est toutes tes portes doivent être accessibles.
Ouais.
Toutes tes toilettes doivent être accessibles.
Il faut que deux chaises roulantes puissent passer
toutes
dans
tes
un corridor.
Tes corridors doivent être de cette largeur-là. Puis là, les organismes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient la bâtisse à terre puis ils le recommençaient parce qu'ils disaient, au nom de l'accessibilité.
En plus, pour vrai, je trouve ça super important, l'accessibilité.
Ben, moi aussi, je trouve ça super important. Mais mettons sur un building de 18 étages, là. Moi, là, si j'étais le représentant de l'Association régionale des personnes loisirs handicapées, je dirais « Parfait, assure-toi que ta porte principale soit accessible. Assure-toi que ton ascenseur principal ait telle largeur. Hey, assure-toi non, là, sur 18 étages, d'en construire 2-3 là, que les gens à mobilité réduite, ils vont avoir accès. Ouais. Que la salle de bain va être
Jeff,
un peu plus grande. »
Il y a des reportages à chaque année où est-ce qu'on passe notre journée dans la peau d'une personne en chaise roulante puis on le sait qu'on doit faire mieux.
Oui.
Le problème, là... Puis là, tout ce que tu... Là, on a l'avertissement de sarcasme en passant.
C'est ça, là. Okay. C'est ça, bon. Vous avez compris, j'espère.
Il y a un nouveau code de la construction qui va entrer en vigueur l'automne prochain.
Ouais.
Et la presse a fait un super travail d'interroger beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans le domaine de la construction, qu'on parle de logements étudiants, logements sociaux, logements commerciaux, etc., des gens qui font des projets. C'est l'unanimité que ça va beaucoup trop loin, les nouvelles normes dans le code de la construction, et que ça risque de ralentir la construction. J'aimerais vous rappeler qu'on a une crise du logement en ce moment.
Bien, c'est ça.
Et des infrastructures qui tombent partout. Donc, est-ce qu'on veut vraiment ralentir le rythme? Mais tout ce que tu as nommé, tu sais, par exemple, bon, les normes sismiques, là, les normes sismiques, ouais, c'est les affaires pour les tremblements de terre, ça, c'est clairement exagéré. Première affaire qui prendrait le bord, beaucoup plus que l'accessibilité pour
oui,
les personnes handicapées.
Oui, ça, je serais d'accord avec toi.
Après ça, on va exiger des infrastructures pour les véhicules électriques. Donc, tu construis un... Puis c'est surtout pour les nouveaux bâtiments, puis les rénovations.
Mais ça, c'est correct. Ça, honnêtement, j'en vois de plus en plus des véhicules électriques sur la route. Là.
Mais le problème, c'est qu'à force de vouloir être parfait, on risque de ne pas avoir de projet.
En plein ça.
Tu sais, à un moment donné, on dit « Ah, mais c'est vrai que ce serait bien d'avoir des bornes de recharge. » Oui, mais s'il n'y a aucun nouveau logement qui sera construit, il n'y en aura pas de nouvelle borne de recharge.
Non, puis en même temps, il y a plein d'entrepreneurs qui sortent pour dire « Hey, à ce prix-là, là, oubliez ça. »
Ben,
si
ça.
Je peux pas le construire, d'un, parce que je n'ai pas la capacité financière.
Puis après ça, on dit « Les entreprises, ils nous surchargent. »
C'est ça. Puis de deux, si je le construis, c'est parce que ça n'aura pas de sens pour le locataire qui va le prendre.
Donc, là, il y a beaucoup d'inquiétudes qui est rapportée. Le Parti libéral a fait une proposition que je trouve vraiment très bonne, là. C'est de revoir tout ça et d'essayer d'alléger le plus possible. Parce que je pense que chaque bonne intention, individuellement, on se dit « Ah ben oui, ah ben oui ». Puis on veut toujours être prudent, tu sais. Moi, je me rappelle, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, là, tout à coup, on veut tout changer les normes. Tu sais, vous rappelez, il y avait eu l'incendie dans la résidence pour personnes âgées sur l'île verte.
Oui.
C'était épouvantable. Là, tout à coup, il a fallu mettre des détecteurs puis des gicleurs un peu partout. Tu sais, on est beaucoup comme ça.
Là, ça fait en sorte qu'on construit des maisons des aînés à plus d'un million la porte.
Ben, c'est un peu ça. Puis il faut accepter à un moment donné que... C'est sûr que si on attend de notre gouvernement qu'il ait tout prévu les catastrophes possibles, ben, ça va donner des choses inapplicables qui vont ralentir la construction et qui vont avoir des effets probablement encore plus graves. Donc, on ne sera pas parfait. Tu sais, les édifices puis les tremblements de terre, là, tu sais, c'est un bon exemple. Tu sais, il n'y en a pas souvent, des tremblements de terre au Québec.
J'ai la carte ici. À Québec, là, dans l'histoire de la ville de Québec, c'est deux tremblements de terre de magnitude 5.
En 1989, je m'en rappelle de celui-là.
Fait qu'à un moment donné, on n'est pas une zone sismique de Québec en général. Puis de toute façon, il y a des zones qui le sont un peu plus que d'autres. Fait qu'à la limite, ajuste tes réglementations.
Dans Charlevoix notamment. Est-ce qu'on veut ralentir la construction dans un moment aussi crucial de notre économie puis de la crise du logement?
Non.
Pour ça?
Non.
Donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut remettre le projet dans la machine à réflexion et le regarder du point de vue avec d'autres impératifs, notamment que, ben, en passant, le secteur de la construction, c'est névralgique pour la vigueur économique.
Ouais.
Donc là, faire face à nos soubresauts économiques avec les tarifs de Donald Trump, avec tout ce qui se passe, ça passe notamment par la construction.
En effet.
Retournez donc à tabac dessin.
Excellent point. On termine avec Édouard Lamarre, 20 ans, et Émile Thibault, 15 ans, des jeunes souverainistes qui étaient au rassemblement du Oui Québec. T'as fait une animation là-bas, toi, Antoine?
Oui, j'étais là, c'était le fun.
T'étais là, on les écoute.
Mes amis qui sont pas québécois nés ici sont tout autant souverainistes. Fait que je pense pas que on devrait avoir des vues conservatrices par rapport aux souverainistes.
Je vois pas pourquoi on pourrait pas inclure d'autres nations avec nous dans ce mouvement.
Moi, Émile Thibault, 15 ans, je voudrais que ce soit mon fils.
Ils sont cute, hein?
Ben, pour de vrai, oui. T'es moi, là, à 15 ans, tu te retrouves dans un rassemblement politique comme ça. Tu t'intéresses à la politique,
ouais.
Tu t'intéresses à la nation québécoise. Mon étoile du jour revient, Émile Thibault. Mais là, dis-moi là, on s'est chicané encore, là?
En fait, c'est qu'on s'est pas tant chicané, mais c'est ça
qui
ressort.
Mais là, pourquoi les médias disent que ça chicane,
bon,
là?
Alors,
qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le PQ était pas ouvert aux immigrants, là?
Non,
c'est ça qu'on a
dit?
Pas
dit ça comme ça. OK, on fait un petit récapitulatif.
Vas-y.
Premièrement, les Oui Québec avaient un événement en fin de semaine.
Ouais.
Ils ont profité de l'événement pour dévoiler un rapport. Ils ont rencontré un paquet de groupes, des dizaines de groupes de la société civile. Quand on dit société civile, c'est en dehors du gouvernement.
Mm-hmm.
Donc, secteur économique, secteur communautaire, etc. Pour leur demander un peu toutes sortes de questions sur le mouvement souverainiste, sur le projet de pays. Qu'est-ce qui les inquiète? Qu'est-ce qui les interpelle? Etc. C'est un rapport de 35 pages qui est disponible en ligne. Vous tapez « Oui, Québec, rapport souveraineté ». Vous allez le trouver direct et vous allez constater qu'il y a juste un petit bout qui parle de fermeture. Parce que c'est ça qui est sorti de l'article de la presse, notamment, que le mouvement souverainiste était trop fermé, qu'il fallait davantage d'inclusion. Écoutez, là, moi, ça vous jette ça en bas de votre chaise. Ça fait des années qu'on le sait, qu'il y a un enjeu d'inclusion par rapport au projet de souveraineté. On a tellement de misère à convaincre les immigrants.
En 95, après le, après le vote,
Jacques nous a pas aidé bien, bien.
Jacques Parizeau, l'ex-premier ministre, nous l'a dit.
Puis, moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est possible que d'autres, des personnes issues de la diversité de l'immigration embarquent dans le projet de pays, mais c'est normal que l'adhésion soit un peu moins élevée pour toutes sortes de raisons. Toi, tu as immigré au Canada, premièrement. Souvent, c'est le Canada qui t'a... c'est ça que tu as en tête quand tu viens. Deuxièmement, des fois, tu arrives de pays dans lesquels il y a des conflits, il y a de la corruption, toutes sortes de choses au niveau politique. Et là, tu arrives dans un pays avec une certaine stabilité, une démocratie. Ils sentent des fois moins... interpellé par prendre un risque avec Ensuite, il y a aussi la connaissance de l'histoire. Tu sais, je veux dire, plus les gens connaissent leur histoire, plus ils sont souverainistes, c'est comme ça. Bien, c'est sûr que les personnes qui viennent d'arriver ici n'ont pas la même connaissance, à moins qu'ils aient étudié ça dans leur université, dans leur pays. Là, tu sais, c'est rare.
Ouais, puis encore là, ben, si jamais c'est Mark Carney, le prof d'histoire, ben là, ça change. Parce qu'on a printé, c'est plein d'avant.
Ben, c'est ça. Moi, je suis immigrante, j'arrive, j'entends le premier ministre dire que tout le monde s'entend bien comme ça. Je me dis, on n'a pas besoin de faire la souveraineté.
Ben non. Donc,
mais c'est un enjeu qui est là depuis longtemps.
Clairement.
Et il n'y a rien de nouveau là-dedans, les amis. Là. OK? Il y a un enjeu, c'est un défi. Les partis font leur possible et il y a des approches différentes. QS n'arrête pas de taper sur ce clou-là, puis le PQ, lui, n'arrête pas de se braquer sur la question. et c'est ainsi. Puis là, on ressent une espèce de regain chez les jeunes, OK? Qui, au niveau des chiffres, n'est pas si extraordinaire, mais honnêtement, je vous dis, là, il y a 10 ans, on parlait de souveraineté, là, les jeunes, ils nous regardaient. Il y a comme une ouverture, une curiosité.
Il y a un intérêt, parce que là, tu sais, j'ai fait justement exprès pour sortir deux jeunes souverainistes, 20 ans, 15 ans, mais il y a un intérêt parce que hier, dans le minivan, avec des gars
ils
qui sont
jouer
au football de 16 ans, ils me posent la question. Hey, t'animes à la radio, parle-moi donc de souveraineté, parle-moi donc du Canada, parle-moi donc de. Fait qu'il y a un intérêt, ils en entendent parler, ça
mais
les
c'est
intéresse.
Incroyable. Puis pas juste les jeunes. Hey, l'autre fois, j'étais au resto, j'attendais une de mes amies, puis là, veux pas, j'entendais un peu les discussions des autres temps. Puis il y avait clairement une date, une première, deuxième date, un autre temps. Puis là, la fille a dit toi, la souveraineté du Québec, t'en penses quoi?
Oh, ouais!
Hey, je m'excuse, mais on n'entendait pas ça il y a 10 ans, là.
Non!
Ben, j'aimerais mieux pas entendre ça à ma deuxième date.
Ben, autant le savoir. Moi, je trouve que, tu sais, il faut que tu saches un peu les positions. Puis si le gars, il dit j'ai pas d'opinion, en tout cas, moi, je trouve ça turn off. Mais je préfère quelqu'un qui me dit je suis contre que, ben, j'y ai pas pensé.
Mais t'as raison!
Tellement. Donc là,
j'aime ça.
En fin de semaine, c'était un événement et une des affaires qui était frappante, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes, mais il y avait aussi des personnes connues. Tu sais, on a un désengagement un peu du monde artistique politiquement depuis plusieurs années, on le dit souvent. Ben, il y avait des artistes et des gens connus du milieu médiatique ou des arts qui étaient présents puis qui s'affichaient, notamment des jeunes influenceurs. Il y avait Lisanne Nadeau qui était là, Pascal Deblois, il y avait Kim Lizotte qui était présente et plein d'autres mondes. Ben, ça démontre qu'il se passe quand même un petit quelque chose parce que je te dirais que tout le monde se mettait un sac en papier sur la tête il y a quelques années quand on parlait de souveraineté. Mais tout ça pour dire que moi, je pense que tout le monde devrait prendre une petite tisane.
Ouais.
Quand il est question de mouvement souverainiste, si tu es au PQ, que tu sois à QS, quand il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui te déplaît dans l'autre groupe, là, respire avant de réagir.
En effet.
T'sais, on a reçu plusieurs personnes de Québec solidaire en entrevue dans les derniers mois. Moi, il y a une question que je pose souvent à QS, c'est allez-vous réussir à vous empêcher de taper sur le PQ alors qu'on a peut-être un référendum qui s'en vient, peut-être ne pas tirer dans la chaloupe. Des fois, j'ai l'impression qu'ils s'attaquent davantage qu'ils attaquent les adversaires fédéralistes.
Charles Milliard est crampé de rire, lui-là.
Ben, il peut bien rire, mais là, c'est son âge, son pas
Oui, c'est son âge, pas. Mais tu sais, je veux dire, le camp du non, d'abord, je ne dirais pas Charles Milliard.
Ouais,
le camp du non, on regarde ça aller, il dit continuez de vous chicaner.
Ça me fait penser au mouvement féministe, des fois, tu sais, des féministes qui s'attaquent entre eux autres, parce que tu n'as pas exactement dit la même affaire que moi. Hey, vous comprenez que diviser pour mieux régner, là, ça fonctionne pour tous les mouvements sociaux, pour tous les mouvements politiques. Donc, calmez-vous. Là, quand le titre de la presse est sorti, je voyais les péquistes se faire aller sur X.
Ouais, mais là, c'est la presse.
Oui, c'est ça. Fait que là, c'était Mais Québec solidaire et la presse, tous unis pour détruire le PQ. Calme.
Hey, pourquoi le PQ? Pourquoi le PQ est toujours sa victimette de même?
Parce que c'était motif.
Oui, mais ils sont toujours victimes de tout.
Oui, mais c'est parce qu'il y a du vrai là-dedans aussi. OK? Il y a le syndrome du persécuté.
Tu le sais, mon vote est volatile pour la prochaine élection.
Oui. Est-ce que ça t'attire du monde qui envoie chier?
Non, je te l'ai dit. Moi, je veux voter pour un gagnant. Quelqu'un qui a une attitude de gagnant. Quand tu dis les autres, ils ont encore parlé de moi. Ah, tu me donnes pas le goût de voter pour toi.
Je trouvais que c'était quand même relativement simple de réagir plus positivement dans le sens de dire le mouvement souverainiste est ouvert à tous. Vous êtes
ben
libre.
Oui.
Par contre, tu sais, parce que je sais que la deuxième étape de ce discours-là, de dire qu'on n'est pas ouvert aux immigrants, puis tout dans le mouvement souverainiste, c'est ni politique en immigration, puis en laïcité.
Oui.
Puis en langue française. Moi, je suis désolée, mais limiter son immigration, vouloir une intégration qui est harmonieuse, vouloir un espace public qui est laïque, c'est pas raciste.
Okay? Pas du tout.
Donc moi, ça, je décroche quand la prochaine étape, c'est qu'il faut qu'on arrête de protéger notre langue puis de protéger notre
parce
vivre
que,
ensemble.
Parce okay? que si c'est lui, ben je le suis, parce que mon prochain vote va aller à un parti politique qui va m'offrir exactement ce que tu viens
regardez,
de dire.
Regardez, là, je pense qu'on a trouvé l'équilibre qui est recherché. C'est pas si difficile.
Et voilà.
Puis je voyais, c'est ça. Il y avait Mathieu Bock-Côté qui était très réactif en fin de semaine puis qui a dit que les Oui Québec, c'était des saboteurs. Ah. Puis, évitons d'attaquer encore plus fort l'autre partie, disons, du mouvement souverainiste que t'attaquerais les fédéralistes.
Ben oui. Puis de toute façon, comme dans n'importe quel débat de société, et je termine là-dessus, chez les Québécois francophones de souche, je vais les appeler comme ça, il y en a qui sont pro-laïcité, puis il y en a qui sont contre la laïcité.
C'est pas monolithique, tout ça.
Et
là,
c'est la même chose chez les personnes immigrantes. Tu vas parler avec des personnes immigrantes, il y en a qui vont dire, la laïcité, ça fait plein de sens.
Il y en a qui viennent ici pour ça.
Ben oui, j'ai quitté mon pays parce que j'étais écœuré des prières puis que la femme soit maltraitée. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben non, moi, ma religion compte pour beaucoup. Mais ça, c'est... Puis là, je veux pas les séparer en camp. C'est ça dans notre société. Que tu sois une personne immigrante ou que tu sois quelqu'un qui provient de la nationalité québécoise.
Quand tu vois les choses de manière binaire puis que t'écoutes pas, ça donne des préjugés comme ceux-là. Moi, je dis, écoutons-nous. Puis j'étais là à l'événement en fin de semaine. Je vous dis pas que j'ai tout aimé ce que j'ai entendu.
Ouais.
OK, j'animais un panel féminisme et souveraineté. T'sais, c'est sûr, c'est plus woke que moi, dans ma tête, je suis là. T'sais, je veux dire, soyons honnêtes. Mais j'écoute.
C'est quoi le commentaire le plus woke que t'as entendu? Ça m'intéresse.
Je vais t'en dire un, puis c'est controversé.
Vas-y donc.
La question, il y avait un panel aussi sur les Premières Nations, en fait, de personnes issues des Premières Nations. T'sais, moi, par exemple, je trouve que le projet de constitution de Simon-Jolin Barrette, quand j'entends la PNQL dire « on aurait dû être impliqué activement dans le processus », je me dis « non, c'est une constitution, c'est pour une nation. Vous nous dites que vous êtes d'autres nations. »
Ouais.
Donc, moi, je mets... Tu sais, ça me challenge beaucoup quand j'entends des propos comme ceux-là.
Je comprends.
Souvent, teinté d'un peu, excusez-moi, de méconnaissance des Premières Nations. C'est rempli de bonnes intentions, mais on a 11 Premières Nations et la nation Inuit au Québec. Donc, c'est pas parce que t'impliques un Autochtone puis que tu fais check sur ta liste puis que t'as dit « on est en territoire non cédé » que t'as vraiment impliqué. T'sais, c'est une grande complexité. Puis ça, c'est le genre de choses qui vient me chercher parce que ça me prendrait 2 heures à leur expliquer. Puis j'ai travaillé longtemps dans les affaires autochtones puis ça m'intéresse vraiment. Mais ça, souvent, c'est controversé puis je vais me pogner avec du monde là-dessus parce qu'ils ont plein de bonnes intentions, mais ça marche pas pantoute, à mon avis, leur raisonnement. Mais... C'est toujours comme ça. Puis sur mon panel féministe, c'est sûr, on a parlé. Puis moi, je me considère féministe, mais à un moment donné, tu sais, par exemple, est-ce qu'on devrait mettre des conditions à la souveraineté? Est-ce que le Québec souverain devrait être pré-féministe avant même qu'on aille voter ou non? Tu sais, c'est des vrais débats, là. Puis, tu sais, pour citer Pierre Falardeau, lui, il disait « Si tu mets des conditions à souveraineté, t'es pas progressiste, t'es un trou de cul. » Tu sais, c'est un peu ça. Fait que c'était bien intéressant, mais tout ça pour dire que c'était une fin de semaine où c'était pas juste du négatif. Là. Faut pas juste lire les grands titres dans le journal.
Antonine Iaccarini vous l'aura dit, si vous mettez des conditions à souveraineté...
Non, c'est pas moi qui ai dit ça! J'ai cité Pierre Falardeau. C'est un vrai débat, cette affaire-là.
Vous êtes des trous de cul.
Max aimerait ça, là.
Ben oui! Elle vous l'a dit.
Antoine,
c'est vraiment une belle discussion. J'ai vu toi que tu te chicanes avec le QS, avec le PQ,
avec
les féministes. Parce que
il
n'est
pas arrivé aux bonnes conclusions.
Il n'y
a rien compris de ce que j'ai dit. Je suis la personne la plus pire. Je parle à tout le monde. J'écoute l'autre. Audi, Alteram, Partem, comme disait Bernard Landry.
Tu fais un gros message anti-division. Résultat, Jeff. Dans le fond, tu te chicanes avec tout
Mathias,
le monde.
Mathias, est-ce que je peux compter sur toi pour quelque chose? Quand je vais quitter le studio dans une minute, parce que je suis en retard là, maintenant, je me suis emballée. Peux-tu empêcher qu'ils fassent des wrap-up, genre, à l'ambiqué?
Qui déforment tous tes propos,
oui,
là, je m'occupe de ça.
Merci.
C'est... En tout cas, bref. Ça va être quoi le résultat?
Ça va être le temps d'aller à la pause, oui.
Ça va être quoi le résultat de la game à soir?
Les Canadiens vont gagner.
Ah oui, combien?
5-1.
Oh!
Non, mais c'est parce qu'ils gagnent, ils perdent. Après ça, ils regagnent. Il y a comme une tendance là, que j'observe.
Vous l'aurez appris à Boulevard 102-1. Antonin Iaccarini n'est
plus juste...
Y a-tu un
match juste... à... Oui. Ça aurait été mon genre qui me disait, ben, t'es dans le champ, Iacarini, parce qu'il n'y a même pas de match à soi.
Antonine Iacarini n'est plus juste une chroniqueuse politique.
Chroniqueuse sportive.
Elle n'est plus non plus seulement cette tête bien pensante de la politique de Boulevard 102.1 dans le caucus, dans l'émission N'en jase de midi à 12h30, extensionnée aujourd'hui à cause de plein de niaiseries de début de show. Non, elle est aussi maintenant rendue une experte hockey.
En tout cas, à suivre pour ce
5-1
soir.
5-1 Canadien.
Imagine, j'ai raison.
On va parler entre experts après, avec Alex Laramin, Mathias Turcotte et moi-même du Canadien. Avant circulation.
Oui, je veux juste vous noter un incident sur l'autoroute 20 en direction ouest. C'est à hauteur de l'halte routière à Saint-Nicolas. La voie droite qui est présentement bloquée. Les services d'urgence sont sur place, mais forcément, c'est pare-choc à pare-choc. Là, ça remonte un peu au-dessus par la 73 vers le pont, s'il y a quoi que ce soit d'autre. 418-971-1021 par texto.
Anto vient de sauver en courant. D'après moi, t'es allé chicaner quelqu'un. Hein? C'est ça qu'il fallait dire.
T'as très bien compris le message. Je pense. Je sais pas s'il est parti chicaner avec QS ou le PQ.
Ouais,
là,
c'est
mais
ça. C'est... Ou avec les Oui Québec. Elle n'est pas parti chicaner avec ces deux petits jeunes-là. Là.
Mes amis qui sont pas québécois, ouais. Nés ici, sont tout autant souverainistes. Fait que je pense pas que on devrait avoir des vues conservatrices par rapport au souverainisme.
Je vois pas pourquoi on pourrait pas inclure d'autres nations avec nous dans ce mouvement.
Après la pause, on chicane sur le sport avec Alex Laramin.